Alors, 5 ans après, évidemment, l'incendie de la résidence du Havre à l'Île Verte et 32 personnes aînées qui ont perdu la vie dans cette tragédie, 5 ans après, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et où en sommes-nous rendus du côté, justement, des résidences pour aînés? On va parler avec la directrice générale adjointe du Regroupement québécois des résidences pour aînés, Mme Chantal Saint-Onge. Bonjour.
Oui, bonjour.
Il faut dire qu'avant l'incendie qui s'est passé du côté de l'Île Verte, on n'était pas où on est maintenant, là. C'était pas les mêmes réglementations. Donc, cet incendie-là a changé beaucoup de choses pour les résidences pour personnes aînées.
Oui, tout à fait, tout à fait. Malheureusement, l'événement de l'Île Verte a vraiment a amené le gouvernement à exiger que l'ensemble des résidences privées pour aînés soient giclées pour 2020. En fait, je vous dirais qu'il y avait certaines mesures qui étaient déjà en train de se développer avant l'événement de l'Île Verte, mais ça a été confirmé là, à partir de ce moment-là.
Il y a aussi, évidemment, dans les recommandations, on a parlé des gicleurs, mais aussi on est arrivé aussi avec une certification obligatoire là, pour les résidences pour personnes aînées. Donc, j'aimerais que vous me parliez de cet aspect-là qui a changé.
Donc, oui, le règlement sur la certification est plus exigeant du côté, justement, de la sécurité des bâtiments. On parle, entre autres, d'exiger d'avoir un plan de sécurité incendie, donc un plan d'évacuation, et d'avoir des exercices à chaque année qui se font avec le personnel et les résidents. Il y a aussi, je vous dirais, l'ajout des systèmes d'alarme plus rapides, donc on appelle les systèmes d'alarme à deux temps. Donc ça, c'était déjà des mesures qui avaient été discutées avant les événements d'Île Verte, mais qui ont été comme appliquées à partir de ce moment-là. Et il y a évidemment tout ce qui est les coupe-feu, les détecteurs de monoxyde de carbone, les mises à niveau des systèmes d'alarme. Donc tout ça est devenu des exigences dans la réglementation.
Bon, est-ce que c'est des exigences qui sont difficiles pour justement les résidences? Est-ce que aujourd'hui, tout le monde respecte ça ou on a encore du chemin à faire?
Bien, je vous dirais dans un premier temps que tous les propriétaires de résidences et l'ensemble, je pense, de la population en général sont pour la sécurité des personnes aînées qui vivent en résidence. Et je vous dirais que effectivement, l'ajout d'exigences peut devenir difficile pour les petites résidences. Je vous parle entre autres des gicleurs où les résidences doivent se conformer et il y a un financement qui est disponible au niveau du gouvernement, un bon financement, mais c'est l'obtention de des sommes avant de réaliser les travaux qui devient difficile pour les petites résidences. Parce que le gouvernement va approuver un financement, mais va le rembourser après la fin des travaux dans les 5 années qui suivent. Donc, les résidences qui ont les reins moins solides au niveau financier doivent faire certaines démarches avec des institutions financières pour obtenir ce financement-là avant les travaux, et c'est ce qui ne peut pas se réaliser.
Donc, le résultat, est-ce que ça va mener à des fermetures? Est-ce que vous avez des craintes par rapport à ça, que c'est pas tout le monde qui réussira d'ici 2020 à se conformer à cette mesure de sécurité?
Je vous dirais qu'en date d'aujourd'hui, il est peu probable que toutes les résidences soient certifiées pour 2020, compte tenu des délais qui restent. Puis, les plus petites résidences, avec cette pression-là dans toutes les démarches financières et autres, ça leur crée beaucoup de pression, en plus de la pénurie de main-d'œuvre, en plus de l'ensemble des exigences. Donc, oui, il y a déjà eu des fermetures par le passé et on craint effectivement qu'il y en ait d'autres dans l'avenir. Et les plus petites résidences se situent dans différents territoires au Québec, dans différentes régions, et c'est une nécessité qu'elles existent aussi pour les plus petites communautés. Donc, nous, on est très préoccupés par cette situation.
Des chiffres pour la Gaspésie, je crois que vous en avez par rapport à ce qui s'est passé depuis 5 ans, et puis bon, le portrait chez nous.
Oui, en fait, je vous dirais, j'ai deux types de chiffres. J'ai les chiffres pour la fermeture des résidences. En fait, je vais vous dire, il y a 50 résidences en Gaspésie. Puis, de ces 50 résidences-là, il y en a 12 qui sont giclées actuellement. Il y en a 18 qui sont à Giclée et il y en a 20 qui ne sont pas soumis à ces normes-là. Alors, ces 20 résidences-là qui ne sont pas soumis à ces normes-là, c'est qu'elles ont 9 unités ou moins. Alors, elles n'ont pas l'obligation d'être giclées, mais elles ont l'obligation d'avoir d'autres mesures mises en place pour pouvoir permettre l'évacuation. Donc, des sorties directement à l'extérieur sur les deux étages et d'autres mesures, là, des détecteurs et tout ça, comme je vous parlais tantôt. Ça, c'est pour les gicleurs. Du côté des fermetures de résidences, en Gaspésie, dans les 4 dernières années, il y a eu 19 fermetures de résidences. Il y en a 10 autres qui se sont ouvertes, mais il y a quand même eu 19 fermetures. Et quand je regarde le portrait, on voit qu'il y a beaucoup de petites résidences en Gaspésie et il y a une inquiétude de ce côté-là que les gens, avec les pressions, puissent décider de fermer les résidences, malheureusement.
Oui, parce que donc, c'est les 18 qui demeurent. Qui ne sont pas giclés là, dans ces 18-là, oui. Ça risque de fermer, là, c'est ça?
Bien, ça pourrait. Ça pourrait. On l'a vu dans les derniers mois là, où les petites résidences, avec l'ensemble des mesures, entre autres, puis quand je vous parle aussi de la pénurie de main-d'œuvre qui crée une pression, où les gens vont décider de fermer, et ce n'est pas ce qu'on souhaite. Je vous dirais que par rapport au programme de Gicleur, on a rencontré le cabinet de Mme Blais, Marguerite Blais, à cet effet-là pour leur faire part des embûches qui sont rencontrées et des solutions, pour leur émettre des solutions aussi. Et on a eu une bonne écoute pour pouvoir améliorer le programme de Gicleur et permettre rapidement aux résidences d'avoir accès à ce financement-là et de pouvoir procéder au giclage de leur résidence.
Donc, c'est à venir, ça?
Oui, c'est à venir.
Donc,
on attend les suites. Okay. On attend les suites, mais on a eu une très bonne écoute.
Donc, il reste encore un an d'ici 2020 oui. Et peut-être plus. Oui. Je pense que c'est en décembre 2020.
Oui, c'est en décembre 2020. C'est ça, exactement. Donc, un peu plus d'un an. Mais évidemment, comme je vous dis, les démarches sont quand même... sont quand même longues du début à la fin. Nous, pour nos membres, pour les membres du regroupement québécois des résidences pour aînés, on a mis sur pied un programme d'assistance bâtiment et c'est une équipe d'experts qui accompagne le propriétaire ou le responsable de résidence dans tout l'ensemble des démarches du début à la fin. Donc, ça permet vraiment d'avoir les meilleurs experts pour travailler avec eux, d'avoir des meilleurs coûts et de pouvoir faire les travaux à même le milieu de vie des aînés, parce que les aînés vivent là pendant les travaux aussi, donc de pouvoir bien planifier et que ça se fasse de façon harmonieuse. Donc, c'est très aidant, mais là, ce qu'on voit, c'est l'accès au financement là, qui est plus difficile.
Maintenant, la question de la surveillance aussi au niveau des résidences, puis je pense la nuit, est-ce qu'il n'y a pas justement des exigences aussi là-dessus qui ne sont pas faciles à rencontrer là, au niveau de la certification?
Effectivement, il y a des exigences qui vont en fonction de la dimension du bâtiment, donc du nombre d'unités, où on demande qu'il y ait des gens présents sur place pour faire des interventions, de la sécurité, les résidences doivent aussi se conformer de ce côté-là. Évidemment que là, on est dans une pénurie de main-d'œuvre, donc ça crée une pression aussi pour respecter ces seuils-là. Mais je vous dirais que autant les moyens mécaniques dont je vous parlais tantôt, qui sont, je dirais, plus fiables que l'humain parce qu'ils fonctionnent toujours, mais combinés avec une intervention humaine, bon, on est en garantie de meilleure sécurité aussi.
Donc, on comprend que la question de pénurie de main-d'œuvre qui est là en ce moment n'aide pas non plus à rencontrer toutes les exigences de la certification. Je vous entends en parler là, depuis tantôt. C'est un des éléments aussi qui est nouveau là, dans le décor depuis les derniers mois.
Tout à fait, tout à fait. La pénurie de main-d'œuvre, quand je vous disais, plutôt, ça crée aussi une pression particulièrement sur les petites résidences, mais je vous dirais sur l'ensemble du réseau, là, parce que on vit, bon, il y a pas de main-d'œuvre disponible. On est en compétition avec le réseau public aussi, qui offre des conditions différentes. Donc, tout le monde veut avoir sa main-d'œuvre et évidemment, il y a des seuils aussi à rencontrer qui sont importants là.
Donc, ça se voit plus dans des régions comme chez nous, en Gaspésie. On le vit beaucoup en ce moment, cette question de pénurie de main-d'œuvre là. Donc, ça ne vient pas aider la cause des résidences privées pour personnes aînées.
Exactement, exactement. Puis vous parlez de la Gaspésie, mais je vous dirais que dans d'autres régions, je pense à Québec aussi, qui est impacté là, par la pénurie de main-d'œuvre. Mais je vous dirais tout le monde est touché. À Montréal aussi, là.
OK.
Tout le monde est touché.
Je vous remercie beaucoup. Donc, Chantal Saint-Onge, directrice générale adjointe du regroupement, oui, le regroupement québécois pour les résidences des aînés. Merci beaucoup.
Ça me fait grand plaisir.